Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un monsieur qui fut un très grand serviteur de Marie et qui s'est dévoué corps et âme au service de Notre-Dame des Victoires. Cela se passait au XIXe siècle. Il est oublié maintenant et je trouve que c'est dommage. Et c'est pour ça que je veux vous parler de lui. Il s'appelait Cyril de Mondebanque et il naquit le 27 janvier 1821 à Aurignac dans la Haute-Garonne. Il fit ses études à Toulouse. La première communion laissa en lui une impression profonde et son souvenir l'aidera à une heure critique à retrouver la foi ardente qui alimentera sa vie. Cyril se destinait au commerce, ayant été témoin dans cette profession de procédés qui choquaient son honnêteté, il abandonna son projet, mais cette déception l'avait déconcerté. Âgé de 24 ans, il demeurait un homme droit et intègre, mais il avait cessé toute pratique religieuse. Une de ses parentes sut ramener la paix dans son cœur, un prêtre le releva. Et de cette crise en ressortit un très grand chrétien. En 1846, Monsieur de Banque entra à la Compagnie des Assurances Générales. Ayant son logement près de Notre-Dame des Victoires, il y allait souvent. Il eut à un moment l'idée de la vie religieuse, mais il fut effrayé à la pensée du sacerdoce. S'en jugeant indigne, il resta donc dans le monde, S'adonnant à diverses œuvres. Celle qui fut surtout l'objet de ses prédilections, ce fut l'adoration nocturne, dont il en a été sinon le fondateur, du moins l'apôtre et le propagateur. Donc l'adoration nocturne, elle est née ici, à Notre-Dame des Victoires, en 1846, grâce à Hermann Cohen, qui devint carme, et l'abbé de la Bouillerie. Donc il connaissait bien le pianiste, parce que Hermann Cohen fut, avant sa conversion, un très grand pianiste. Il était élève de Franz Liszt. Au départ, pour cette adoration, il y avait 23 hommes, dont Monsieur de Banque. Bientôt, leur nombre permettait d'assurer 5 nuits dans le mois, mais comme ces veillées auraient pu déranger le service paroissial, on décida qu'on les ferait à la chapelle des Maristes, rue Montparnasse. Plus tard, l'œuvre offrit ses services aux paroisses de la ville et, après cela, déborda hors de la capitale. Dans l'intervalle, un comité avait été formé. Monsieur de Banque en fut le président et le sera jusqu'à sa mort. Toutes les œuvres le sollicitaient. Il prodiguait des conseils et participait autant qu'il le pouvait. Il était très attaché aux conférences de Saint-Vincent de Paul, fondées par Frédéric Ozanam. Il dirigeait donc le groupe de Notre-Dame des Victoires et par la suite fut membre du Conseil Général. Il créa un comité des mariages, dont le but était de ramener dans la bonne voie des couples en situation irrégulière. Autres œuvres auxquelles M. de Banque était mêlé: la messe du départ, pour appeler les bénédictions de Dieu sur les conscrits qui vont faire leur service militaire, le rétablissement des anciennes confréries du Très-Saint-Sacrement. Celle de Notre-Dame l'avait mise à sa tête durant la procession des hommes. Il précédait la bannière du Sacré-Cœur, tenant un cierge dans une main et de l'autre son chapelet. Les religieuses de Marie Auxiliatrice organisèrent une société de secours mutuel entre leurs ouvrières et prièrent Monsieur de Banque d'être son président. On inaugura pour la nuit un asile à l'usage de ceux qui n'en ont pas. Monsieur de Banque se dévouera encore et il sera l'un des plus précieux collaborateurs du baron de Livois dans cette entreprise d'humanité connu sous le nom d'Hospitalité de Nuit. Une association qui, dans ses infections, allait de pair avec l'adoration nocturne, était le tiers ordre de Marie. on lui avait parlé d'installer à Paris une fraternité pour les messieurs, susciter une famille à la Sainte Vierge, lui conquérir des âmes qui la reconnaîtraient pour mère. Comment M. Deban, qu'il aimait tendrement la Sainte Vierge, aurait-il pu décliner l'offre? 7 membres de l'adoration nocturne formèrent le premier noyau dont il sera le recteur. Pendant près de 30 ans, il mettra autant de prudence que de zèle à faire venir de nouvelles personnes. Il offrira à ses confrères une image d'humilité, de modestie, de pureté, de charité et de douceur. Le tiers ordre lui fournira un stimulant et d'immenses ressources pour exercer l'apostolat et pour imprégner ses travaux de fécondité spirituelle. Aimer Marie et la faire aimer. Que par Marie, le nom du Sauveur soit connu et adoré par toute la terre. C'est ce qui conditionnera son action pour le bien et qui lui servira en quelque sorte de levier dans tout ce qu'il accomplira. Pour la gloire et l'amour de la Sainte Vierge, comme il y a tant travaillé à Notre-Dame des Victoires, pour la gloire et l'amour de Jésus-Christ au Très-Saint Sacrement, comme il le fit avec l'adoration nocturne. Si les œuvres se partageaient les loisirs de M. de Banque, elles n'empêchaient pas que dans la vie civile, il occupât un des rangs les plus honorables. En 1854, il se marie avec Mathilde d'Ispont de Florent. De cette union naquirent 6 enfants. En 1858, il fut nommé secrétaire du Conseil général de la Banque de France. Ce sera la fonction de toute sa carrière. Survint hélas la guerre de 1870. Tandis qu'il restait à son poste, il avait envoyé sa femme et ses enfants dans sa propriété de Montpezat dans le sud-ouest. Il leur écrivait des lettres où l'on percevait ses angoisses pour ceux des siens qui étaient en danger. Ses vues surnaturelles en face des désastres qui se multipliaient, doubles angoisses familiales et patriotiques qui se fondait toujours en un perpétuel acte d'abandon à la miséricorde et à la volonté de Dieu. Admirable fut son attitude durant la Commune en 1871, sa fermeté face au pillage de Notre-Dame des Victoires, son sang-froid et son énergie pour défendre la Banque de France sous la menace des envahisseurs. Sa dignité lorsque lui-même fut arrêté. En juillet 1871, il reçut la croix de la Légion d'honneur en récompense de ses services et de sa belle conduite durant la Commune. Quand le calme fut rétabli, il recommença à mener de front la pratique des œuvres et ses devoirs professionnels. Levé de bonne heure, chaque matin, il faisait sa méditation, il entendait la messe et communiait à Notre-Dame des Victoires, puis il allait à son bureau. Alors je vous dirais qu'il n'avait pas beaucoup de chemin à faire parce que vous sortez de la basilique, la Banque de France, elle est juste en face. Après le déjeuner, quelques instants de prière à l'église, visite de charité, puis retour au bureau. Entre 17h et 19h, récitation du chapelet, visite au Très-Saint Sacrement. Il consacrait à sa famille le temps qui suivait le dîner et il prenait son repas à 21h30. Avec messieurs Raux de Fleury, Baudon, Beluse et de Margerie, il contribua à constituer l'association du vœu national. Après les crimes de la Commune, on comprit alors la nécessité d'un acte de réparation et de supplication fait au nom de la France, coupable par la France, repenti et dévoué. La dévotion au Sacré-Cœur y puisa une satisfaction intense et quand fut érigée la basilique de Montmartre, ce fut un grand bonheur pour les membres de l'adoration nocturne d'y passer des nuits en prière. Il contribua aussi au congrès eucharistique internationaux avec Monseigneur de Ségur, Mademoiselle Taminier et Monsieur Vroux. Et il s'y dépensa de toutes ses forces et avec tout son cœur. À cette époque, l'adoration nocturne prenait une grande extension, non seulement en France, mais partout en Europe, et même dans les autres parties du monde. Il traitait personnellement toutes les fondations, et si aidé autant qu'il fut, il se dépensait sans compter en études, démarches et correspondances. Vers 1890, ses forces déclinaient. Divers chagrins dans sa famille, maladie de son gendre, mort d'une petite fille et de son fils Bernard, achevèrent de compromettre sa santé. En 1895, il quitta la Banque de France. Dès lors, son séjour à Paris fut moins prolongé. Il passait 5 mois entiers à Montpezat. Le château avait une chapelle et il obtint l'autorisation d'y garder la Sainte Réserve et, ce qui est plus rare encore, qu'on puisse donner la bénédiction du Saint-Sacrement. Quelle joie pour ce passionné de l'Eucharistie! Voici le témoignage rendu après sa mort par un prêtre qui lui servait d'aumônier. Je le revois dans son recueillement, les yeux fixés sur le tabernacle. C'était réellement une conversation où s'exhalait toute son âme. Le monde n'existait plus pour lui. Il avait des élans d'amour se traduisant par des soupirs ou des paroles enflammées lorsqu'il se croyait seul dans la chapelle et que les siens ont eu l'occasion de saisir cette expiration. Par exemple, « Mon Dieu, je vous aime tant ». Il s'était agrégé au comité qui avait pour programme le ralliement à la République recommandé par le pape Léon XIII en se plaçant uniquement sur le terrain des principes catholiques sans s'inquiéter de la forme constitutionnelle qui régissait la France. Pour lui, ce légitimiste, c'était un sacrifice, mais il avait salué cela comme un espoir. L'essai de restauration monarchique négocié en 1873 avec le comte de Chambord avait échoué et depuis, le prétendant était décédé. D'ailleurs, le pape avait parlé et cela lui suffisait. Catholique avant tout, il répondit à son appel. En 1897, il rédigea l'histoire de l'adoration nocturne et peu après, une congestion cérébrale le frappa. C'était la veille de la fête de la Toussaint, durant la messe. Le 20 février 1898, une syncope se produisit. Sans souffrance apparente, ayant perdu l'usage de la parole, mais les yeux fixés sur le crucifix, il s'endormit paisiblement. Les tertiaires de Marie comptent avec fierté M. Debanque parmi leurs frères aînés dans la famille de la Sainte Vierge. Parlant du tiers ordre de Marie, il disait « Par son esprit, par son but, par le doux patronage sous lequel il s'abrite, le tiers ordre de Marie devrait attirer plus d'hommes pieux. Il n'est pas assez connu et c'est un devoir pour chaque tertiaire de le faire connaître davantage et de lui amener un plus grand nombre. » Voilà, j'ai avec plaisir, je vous ai raconté l'histoire de cet homme admirable. Et maintenant, avant de terminer, je vais aborder un sujet totalement différent, mais un événement qui s'est passé ici il y a 100 ans. Pourquoi 100 ans ? Parce que nous fêtons cette année le centenaire de la béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et également le 150e anniversaire de sa naissance. Le 25 avril 1923, une délégation de Notre-Dame des Victoires partie de la gare de Lyon pour se rendre à Rome au fait de la béatification de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, prévue le 29 avril. Après 3 jours de voyage, ils arrivèrent enfin à Rome et purent assister à une belle cérémonie présidée par Monseigneur Lemonnier, évêque de Bayeux, puis à la visite du pape Pie XI, à qui l'on remit un reliquaire contenant des os de la Carmélite et un livre racontant la vie de Thérèse. Et, bien sûr, une magnifique gerbe de fleurs et une corbeille de lys avec au milieu une belle rose qui se dressait vers le ciel. Au mois d'août 1923, un triduum eut lieu à Lisieux en l'honneur de la Bienheureuse avec la participation des dames et demoiselles de l'association musicale du Cœur Immaculé de Marie, conduite par le directeur de l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires. Une messe eut lieu au Carmel, suivie d'une cérémonie à l'église Saint-Jacques, avec la participation des maîtrises de Notre-Dame des Victoires et de Saint-Jacques, dirigée par M. Van Lieselbeth, maître de chapelle de Notre-Dame des Victoires, et accompagnée à l'orgue par l'organiste de Saint-Denis et aussi par l'organiste de Notre-Dame des Victoires. Le point d'orgue fut la procession des reliques, accompagnée par 3 cardinaux, 15 évêques et 4 abbés mitrés. La châsse contenant les reliques fut transportée sur une automobile fleurie de la cathédrale Saint-Pierre au Carmel. Et j'en arrive au triduum qui a eu lieu à Notre-Dame des Victoires les 4, 5 et 6 octobre 1923. Durant 3 jours, une foule énorme envahit et assiégea le sanctuaire parisien. Des serments furent prononcés par Monseigneur Messeigneur Gosselin et Chaptal, évêque auxiliaire de Paris, le Père Martin, le bien nommé, supérieur des missionnaires de Vendée, et le Père Carme, Marie Amance de Saint-Joseph. L'archevêque de Paris, le cardinal Dubois, vint le 3e jour clôturer ces belles fêtes en présidant le salut solennel du Saint-Sacrement. L'église fut décorée, le chœur surtout fut transformé sur un fond de tenture de soie bleue, se détachait de grands médaillons portant ces deux inscriptions. À gauche, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et à droite, après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Les roses, semées à profusion, tombaient des corniches, couraient sur les frises et fleurissaient tout le sanctuaire. Au centre, un immense tableau, celui-là même où la Carmélite avait apparu à la foule à Saint-Pierre de Rome le jour de sa béatification. Le tableau avait été prêté par le Carmel de Lisieux. Devant son image, une foule immense défila durant 3 jours dans un recueillement émerveillé. On le dit et même on parla de guérison survenue durant le triduum. Le Père Martin parla dans 3 discours de l'amour de Dieu, prévenant la Bienheureuse de ses grâces et de ses bénédictions, de l'amour de la petite Thérèse, répondant à cet amour, remontant à Dieu en offertoire et en sacrifice, puis de ces deux amours s'embrasant dans la béatitude et retombant sur terre en pluie de roses. Dans un tout autre genre et sous un autre aspect, le Père Marie Amance de Saint-Joseph prêcha la petite Thérèse. Il a dit sa foi, son espérance et son amour. Sa foi, principe et source de ses immolations. Son espérance avec les motifs de sa confiance en Dieu et son amour pour Dieu et pour les âmes. Voilà, on finit aujourd'hui sur une belle note avec Sainte Thérèse avec nous. Merci beaucoup, bon après-midi.